L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
cette recette? Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien froid.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde,
du pain et beurre. Vous écoutez L'Épluche Livre. Pour cette émission, nous vous proposons d'entendre la première partie de la table ronde « Réinvestir les imaginaires collectifs et sociétaux » qui a eu lieu durant la Comédie du Livre en mai dernier. Bonne écoute.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là pour cette Comédie du Livre. Moi, je m'appelle Daïdri, donc je vais être l'animatrice, la modératrice de cette rencontre. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui aux imaginaires. Le titre de cette table ronde, « Réinvestir les imaginaires collectifs et sociétaux ». Alors, moi, au début, j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air génial. Puis après, je me suis dit, mince, mais c'est quoi l'imaginaire, en fait? C'est quoi les imaginaires? Donc, j'ai bûché. Attention, vous êtes prêts? J'ai sorti une petite définition pour que tout le monde nous parlions de la même chose. À mon sens, l'imaginaire collectif réfère aux récits, images et symboles que nous partageons tous. Jusque-là. Donc, cet imaginaire n'est pas uniquement imaginaire, on va en parler, puisqu'il a le don de façonner la réalité, il façonne notre manière d'être au monde, l'identité personnelle de chacun, mais aussi la collectivité. Jusque-là, on est bon. Donc, c'est pour toutes ces raisons, cet imaginaire qu'on peut penser hors sol, qu'on peut penser sans accroche réelle, ben, en fait, non, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir devenir, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir être. Donc je suis accompagnée par des spécialistes, quelque part, des représentations de l'imaginaire, puisque vous êtes tous auteurs, dessinateurs, illustrateurs, BD. Donc nous avons Agnieszka, Lucie Albrecht, Annie Salamouri et Juniba. Et donc pour commencer, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Tu veux démarrer, Agnieszka?
Ok. Enchantée, du coup, moi c'est Agnieszka. Donc je suis jeune dessinatrice, autrice de bande dessinée. Est-ce que j'en dis plus ou est-ce que...
Comme tu le sens.
J'ai dessiné pour l'instant Rebirth, voilà, donc chez Myria Éditions. C'est de la fantasy plutôt pour adolescents. Et je travaille en ce moment même sur mon autre projet que je scénarise cette fois, qui s'appelle Dérive. Alors comme la BD est en cours de préparation, je ne l'ai pas, logique. Et qui est mon projet militant... donc, stay tuned pour 2028 et je te laisse te présenter, Lucie,
sur ce teaser. Bonjour, moi je suis Lucie Albrecht, je suis autrice de bande dessinée. J'ai sorti là en mars ma dernière bande dessinée qui s'appelle Le Complexe. Donc, comme son nom l'indique, ça parle de complexe, de rapport au corps. Et voilà, je ne m'étale pas plus parce que je pense qu'on va tourner un petit peu autour de... Enfin, on va parler en tout cas de cet album pour les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez plus d'infos personnelles, on en parlera sur le stand en dédicace.
Bonjour. Moi, je m'appelle Anis El Amouri. Je suis auteur de bande dessinée. Là, ça fait quelques temps déjà que je travaille sur un projet de trilogie qui s'appelle Il brûle. Hop là, je vais faire la même chose. Voilà. Dont le tome 2 est sorti fin de l'année dernière, en octobre, et le tome 1, c'était en 2022, en octobre aussi. Voilà, et je suis édité aux éditions Six Pieds Sous Terre, qui me donne l'honneur de connaître cette belle ville de Montpellier.
Merci, Six Pieds.
Banane. Non, du coup. Bonjour, du coup, moi, c'est Juni. Je ne sais même pas comment me présenter, du coup. J'allais dire, je gribouille des trucs.
Ouais, bah, c'est déjà pas mal.
Moi, je gribouille. En général, j'écris et je gribouille mes propres histoires. On va voir si je vais me casser le bras en essayant de soulever la pile. Là. Ah, du coup, là-dedans, vous avez La première, là, c'est une bande dessinée sur une corporation qui vend de la viande de singe en boîte sur une île ouest africaine. Ensuite, vous avez une collection de fables qui sont basées sur le roman de Renard et du folklore allemand. Et celle d'après est basée sur le Capitaine Nemo. C'est une bande dessinée post-apocalyptique sur la fin du monde. Et la dernière, c'est une adaptation de Batman et Robin. Voilà, donc tout ce que je fais est publié aux États-Unis. Je pense que c'est plus ou moins le point commun entre tous et la principale différence par rapport aux autres auteurs de France pour la plupart. Donc voilà. Bonjour.
Ça passe pas sur la table. C'est trop productif.
Ça, trop de choses, trop de créations, trop de talent. Ouais. Je sais pas si on peut dire qu'il y a trop de talent. Bon, Yanis ?
Non, j'ai oublié de dire que je venais de Bruxelles, voilà. C'est tout.
Ça a son importance.
Ça a son importance, oui.
Donc, cette table ronde que nous allons vivre ensemble va durer à peu près 1h15 et elle est à l'initiative donc, de la collective Girlcott. Coucou la collective. Il y a des membres de la collective, là ? Ouais ? Ah, c'est tout !
Elles sont dédicaces.
Ah, mais c'est pour ça. Elles sont trop connues. Donc, la collective Girlcott, qui est là pour défendre une BD inclusive, une BD éthique, et puis, bon, ben, la loyauté aussi dans les relations entre les éditeurs, entre les auteurs, et les libraires aussi. Puisque moi, je suis dans ce dernier camp. On peut dire ça comme ça.
Collectif des libraires alliés.
Collectif des libraires alliés.
Je sais pas. Mmh. Et pas alliés attachés à... J'arrête, pardon.
On en rediscute après.
Oui, pardon.
Donc, on va explorer ce sujet des collectifs imaginaires et sociétaux, de la manière dont le dessin, la BD, la création et l'art peuvent modeler ces imaginaires et donc, comme on l'a compris, aussi notre vie et notre manière d'être au monde. Donc, maintenant qu'on s'est présenté, si vous êtes OK, on va définir quelques petites questions que je vais vous poser. Et puis, on va essayer d'y répondre tous les cinq. C'est bon ? Donc, première question et pas des moindres. Elle m'a été inspirée en écoutant la radio, en écoutant France Culture, pour tout vous dire. Quelle place prend l'imaginaire dans votre vie ? Si je peux formuler ça comme ça. L'imaginaire tel qu'on l'a défini, en introduction.
Est-ce que tu veux commencer, Lucie ?
Moi, je ne sais pas si tout le monde réfléchit, je peux essayer de...
Allez, ok, voilà, laissez
de, commencer à répondre à cette question. Est-ce qu'on parle d'imaginaire ou d'imaginaire collectif ? C'est une question parce que je me dis que l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui est là vraiment tout le temps, partout, même sans qu'on s'en rende compte. Et ça passe par des choses hyper simples comme les couleurs, par exemple. Donc, enfin, moi, je pensais à ça parce que dans ma BD, j'ai un petit peu joué avec les couleurs pour faire en sorte que ça raconte des choses. Et le choix du rouge pour l'angoisse, le corps, etc. Et le vert comme quelque chose d'aseptisant. Enfin, voilà, on a déjà en fait un imaginaire où on fait des associations quoi, d'idées avec des images. Donc, je me dis que c'est pas quelque chose de totalement imaginaire, mais qui est présent tout le temps, partout. Donc, c'est très vaste comme question et du coup, c'est très dur à répondre de manière...
Pour toi, l'imaginaire passe par la couleur, la symbolique, la représentation des couleurs ?
Pas forcément les couleurs, mais en tout cas, la symbolique des choses. En tout cas, quand je raconte des histoires, moi, j'utilise beaucoup les métaphores et où je fais référence, je ne sais pas, à des œuvres culturelles, à des tableaux, à des choses comme ça. Et c'est un petit peu des mythes aussi. Voilà, le mythe de Narcisse, par exemple, où voilà, j'ai dessiné des fleurs qui sont des narcisses, qui sont présentes tout au long du livre. Je me dis que c'est des références en fait, qu'on a et qui sont présentes dans notre vie actuelle, quoi, mais qui prennent une autre dimension et qui vont servir à raconter quelque chose dans une histoire. Donc en fait, l'imaginaire, on le place là où, dans notre regard, quoi, comment on va voir les choses. Ça peut être, je ne sais pas, une barrière, ça va être quelque chose de très concret. Mais ça peut très vite devenir un truc imaginaire et une représentation qui va raconter quelque chose de l'enfermement, etc., quand on l'utilise dans une histoire. Donc voilà, je pense que c'est...
Si important. Je comprends bien, on a à la fois les couleurs qui ont une symbolique forte et commune, partagée, puisque nous partageons une culture qui est propre à la manière dont on est au monde, la société. Enfin, il y a plein de facteurs différents. Il y a aussi tout ce qui est mythe fondateur, récit fondateur. Donc là, tu parlais de Narcisse, effectivement. Et ça, c'est aussi une culture commune. Et l'objectivation, en fait. Vraiment, utiliser les objets en tant que symbole et représentation pour parfois, finalement, comprendre des choses qui sont plus induites.
Oui, de la connotation, la synesthèse, un petit peu.
Vas-y.
D'ailleurs, ce qui ressort de ce que tu as dit, et je suis tout à fait d'accord, c'est que l'imaginaire, il est construit. Et que nous, en tant que dessinateuristes, on a vraiment une responsabilité à ce niveau-là, en fait. Que ce soit les storyboarders de cinéma, les dessinateurs de bande dessinée, ou même les graphistes qui vont faire de la pub, je pense que les gens qui sont à l'origine de l'image, on porte quelque part un peu une charge de qu'est-ce qu'on va faire de l'imaginaire, qu'on va donner à voir aux générations présentes et futures. Alors, on n'est pas exclu du monde. Genre, comme tu l'as dit toi-même, tu associes certaines couleurs à des émotions, à des choses, et parce qu'on ne peut pas, en fait, juste inventer quelque chose qui serait complètement déconnecté de la culture à laquelle on appartient. Et moi, pour répondre à la question de quelle place l'imaginaire occupe dans ma vie, alors là, je vais plutôt répondre en tant que prof de dessin qu'en tant qu'autrice. Lorsque je donne des cours, je suis souvent un peu dépassée et triste à l'idée de voir que l'imaginaire de ce que c'est qu'une femme pour mes jeunes élèves et notamment mes jeunes élèves filles, c'est souvent je voudrais dessiner un personnage qui a la forme d'une femme ou la forme d'une fille. D'accord. Qu'est-ce que c'est la forme d'une fille? Et ben me dit souvent, elle est un peu comme toi, elle est moyenne, elle est mince, blanche, valide. Et c'est tellement triste qu'en fait notre imaginaire, quand on imagine une fille, soit circonscrit à ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai initié l'idée de cette table ronde, c'est que j'étais en mode, venez ensemble, dessinateuristes, luttons pour développer, en fait, une purification des imaginaires, en fait. J'aimerais que on propose suffisamment à manger et à se nourrir intellectuellement à tout le monde pour qu'on puisse avoir d'autres modèles et qu'on puisse avoir d'autres synesthésies, d'autres cohortations, que le rouge ne soit pas que l'angoisse, ne soit pas que la colère et qu'une fille ne soit pas juste une petite jeune valide et blanche, et qu'on en ait d'autres, quoi. Donc, à vous, s'il vous plaît, présentez-nous ce que vous avez
donc, comme imaginaire. Oui, donc, toi, tu rapportes l'imaginaire au corps. L'imaginaire repasse aussi par le corps et les représentations corporelles, effectivement. Et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Mm. Voilà. Et Gribouillé... Oui, il fallait que je la place. Je suis désolée. C'est bateau. J'avais prévu.
Attention. D'ailleurs... Les gens qui prononcent cette phrase, en général, finissent par mourir dans des circonstances tragiques. Donc...
Écoute, hein, ne nous souhaite pas.
Non, on touche du bois.
Merci. Mais d'ailleurs, si tu veux nous dire quelle place prend l'imaginaire dans ta vie,
Je dirais que l'imaginaire, pour moi, c'est complètement mon lien au monde, en fait. C'est essentiellement mon lien à la réalité. On est des personnes, on est des individus. On dit toujours ça, que les humains aiment raconter des histoires. Et en fait, je trouve ça... très très vrai, et moi personnellement c'est ça qui me fait exister, quoi. C'est ça qui me donne un lien avec le réel. Ça peut sembler paradoxal de dire que ce qui me lie au réel c'est de la fiction, mais c'est le cas. En fait, j'éprouve, je navigue mes émotions à travers la fiction, à travers les livres que je lis, à travers les films que je vois. C'est mon lien principal avec les gens, même. Voilà, je sais pas, c'est des pistes de réflexion. En fait, c'est un espace mental où on peut rejouer les éléments du réel et en les transformant, et en inventant notre propre langage. Et je trouve que c'est assez étrange de se dire que c'est une des façons qui me donne le plus l'impression d'exister, en fait, l'imaginaire. En fait, les histoires sont un outil pour moi de mieux me comprendre, mieux comprendre les autres, mieux comprendre le monde, quoi. Je sais pas. Je trouve ça assez intéressant et aussi avoir accès à d'autres esprits. Et je trouve ça intéressant ce qu'a dit Lucie, parce que tu parlais dans ton livre que tu as mis des narcisses. Tu veux dire, alors voilà, je suis pas sûr. Par exemple, tu dis que c'est quelque chose qu'on sait tous, mais tu parles d'une plante là, c'est ça? Ben voilà, moi je sais pas à quoi ça ressemble un narcisse. Mais ça me semble logique que tu aies mis un narcisse dans ton livre qui parle de l'image de soi et l'image qu'on veut forger de soi-même. Donc en rapport avec le mythe de Narcisse, ok, moi je suis pas expert là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour toi ça a du sens et ça crée un univers cohérent. Et moi, sans comprendre, je ressens quelque chose, je ressens un univers cohérent, je ressens des éléments qui deviennent des symboles, qui deviennent autre chose. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup l'imaginaire, parce qu'on n'a pas besoin de comprendre dans l'imaginaire. On a besoin de vivre, quoi, en fait. Et c'est... J'ai un peu de mal, je disais tantôt à quelqu'un que je lis, j'ai très peu de théories, parce que je suis un peu... J'ai l'impression que ça me ramène un côté banc de l'école où j'ai pas envie qu'on m'apprenne des trucs. En fait, je suis beaucoup plus perméable et poreux à quelque chose que j'apprends par un quelque chose qui ça me donne l'impression de l'avoir vécu, quoi. Voilà, je sais pas trop, mais du coup c'est d'autant plus intéressant de penser où est-ce qu'on se place, comme tu disais Agnieszka, de comment on investit ses imaginaires, parce que effectivement on les forge et mais aussi j'aime bien les forger, mais j'aime bien aussi m'abandonner dedans, pas toujours comprendre.
Parce que on a accès à la chacun, on a une perception du monde qui est très singulière, et comme tu l'as dit, on n'arrive pas avec notre théorie à dire ok précisément voici tous mes paragraphes. Par contre, la sensibilité de notre dessin nous donne accès à une perception du monde, et tous ici on en a au moins 4 différentes, et sans avoir tout le background, sans savoir ce que c'est un narcisse, bah tu peux avoir accès à la perception de Lucie, et ça peut te suffire pour vivre un truc esthétique, quoi.
Ouais, souvent, je sais pas, mais il y a des choses que j'explique. Enfin, je trouve que c'est l'imaginaire, ça a de beau, que je trouve que c'est quelque chose dans lequel on peut se perdre, mais qu'il faut quand même relativiser de temps en temps. Mais j'aime bien que nos biais et nos limites parlent aussi à travers nos imaginaires, et que du coup, c'est pas juste un imaginaire façonné et unifié, mais simplement aussi, moi, mon vécu qui transparaît dans certaines choses. Voilà, Lucie, elle sait ce que c'est un narcisse, elle l'a mis dedans, ça lui semble logique. Moi, ne sachant pas ça, je vais juste être, quelle est cette image? Pourquoi il y a un zoom sur une fleur? Et je vais être un peu fasciné. Je trouve ça assez beau, quoi. Enfin, voilà.
Mais pour revenir à l'image qu'on aurait tous... en tête certaines images comme les narcisses par exemple, c'est pas quelque chose qui est important dans la lecture, c'est vraiment quelque chose qui va renforcer l'univers, l'esthétique et l'émotion qu'on va pouvoir ressentir en lisant l'histoire. Et moi c'est ça, c'est mes récits préférés, c'est ceux où je travaille en tant que lecteur et je fais ma propre interprétation des choses, et je déteste les livres qui vont m'expliquer ce que je dois ressentir, à quel moment, comment. Et c'est pour ça que c'est génial de créer tout un univers avec des codes, ou enfin, en tout cas quelque chose d'imaginaire qui sort du réel, parce qu'on va pouvoir nous-mêmes faire des connexions, faire des métaphores avec ce qu'on y trouve. Et moi, je ne sais pas, dans ton livre, par exemple, je vais trouver un sens qui va m'appartenir, mais dans quelque chose que tu auras dessiné, et pour toi, ça aura un autre sens. Et c'est pareil, quand on regarde des films, on n'a pas du tout les mêmes ressentis.
Ouais, exactement, ouais, c'est ça.
Là, les images, imagées, imaginaires, nous confrontent au réel, c'est ça, par l'émotion, de la meilleure des manières, selon toi?
Ouais, les images, mais les sensations, quoi. Déjà, moi, c'est... Enfin, et peut-être nous tous ici, on a un médium et on essaye de véhiculer des émotions ou un ressenti humain, quelque chose, une expérience humaine, à travers un médium qui a... déjà forcément des angles morts et plein de... Il y a forcément plein de trucs qui vont être lost in translation.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Juniba, quelle place prend l'imaginaire dans ta vie?
Bizarrement, le premier truc auquel je pense, c'est les gamins au primaire qui ont réussi à me faire croire qu'ils savaient voler comme dans Dragon Ball.
Incroyable.
Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. Principalement parce qu'en fait, j'avais justement tellement envie d'y croire que pour moi, c'est devenu un peu une obsession de genre, vas-y, montre-moi comment t'as fait. Et le deuxième élément, en fait, c'est mon père m'a créé dans un laboratoire pour être métisse, c'est généralement comme ça que je le dis. Son idée, c'est que tout le monde a une perspective différente, mais du coup, toutes les cultures ont une perspective différente. Et jouer justement sur le fait d'être au milieu entre deux cultures différentes fait que ça force à avoir une espèce de regard aussi bien intérieur qu'extérieur constamment. Et du coup, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc j'ai une espèce de syndrome un peu bizarre où je regarde les imaginaires de différentes sources et j'ai généralement tendance à faire de l'analyse comparée. Et comme je passe mon temps justement à lire des trucs qui viennent d'autres cultures... Je sais pas, j'ai un PDF qui traîne sur ma tablette de compte hawaïen en ce moment, donc une fois de temps en temps je me prends un truc et puis Et du coup, ça force en fait justement à comparer les imaginaires les uns avec les autres. Et ça va un peu avec ce qui se disait sur le fait que la phrase un référent qu'on a tous m'amuse beaucoup. Parce que du coup, moi, je me dis, je suis pas sûr finalement à l'échelle de la planète que tout le monde sache ce que tel ou tel truc est. Et pour moi, justement, l'intérêt, il est là, en fait. Il est dans prendre ces éléments et faire des espèces de comparaisons entre les différents... La symbolique des choses est un truc qui revient beaucoup dans mes bouquins. Et à chaque fois, la question qui se pose, c'est ça veut dire quoi pour telle ou telle personne ? Généralement, il faut s'arrêter à un moment, sinon on devient fou.
Je suis d'accord.
Voilà. Et l'autre élément, du coup, qui va avec le fait de vouloir voler comme dans Dragon Ball, c'est qu'il y a aussi un effet un peu pervers... pour moi, vis-à-vis de l'imaginaire et auquel je fais très attention, c'est que l'autre chose qu'on m'a inculqué assez jeune, c'était grosso merdo, garde les pieds sur terre parce que tu vas un peu trop loin là-dedans. Alors, là, je pense justement au jour où j'ai montré mon père ayant grandi, enfin, on a grandi, mon frère et moi, avec un père qui ne s'intéressait pas du tout à tous les univers imaginaires, la fiction et tous ces trucs-là. Donc, il nous a emmené voir Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter et tous ces autres trucs au ciné. Lui dormait. Et un jour, on lui montre un documentaire pour essayer de lui expliquer, en fait, ce que c'est. C'était un truc sur les geeks, en général. À cette époque-là, ça se résumait à genre les geeks. Et à un moment, le documentaire dit « Les Seigneurs des Anneaux, c'est la preuve que si les créateurs écoutent les fans, ils peuvent produire des... Non, ils vont produire des bonnes choses. » Mon père a rigolé. Il m'a fallu arriver jusqu'au début des années 2020 pour commencer à comprendre de quoi il parlait avec la montée, justement, de tous les médias, la Marvel et ce genre de trucs, et de voir l'impact des fanbases en général et du rapport que ces fanbases ont avec leur imaginaire. Tout ça pour dire que du coup, le problème de l'imaginaire, c'est un, s'enfermer dedans, et en fait, ça mène au fanatisme. Et du coup, voilà. Donc quand tu me posais la question, pour moi, l'imaginaire, c'est quoi et ça prend quelle place dans ma vie, c'est que ça finit en étude anthropologique sur c'est quoi la montée du fascisme et comment on utilise les iconographies, y compris des trucs qui ont l'air hyper innocents.
Oui, c'est très, très voilà. Judicieux, surtout aujourd'hui dans les représentations politiques, si vous vous amusez à essayer de décortiquer politique et marketing en premier lieu, puisque effectivement, on en parlait tout à l'heure, le marketing, les publicités, ça fait sens. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans la manière dont tu as présenté là, et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est tu parles de filiation, tu as parlé de ton papa, tu as parlé du fait que l'imaginaire, une culture s'adresse à une certaine société, enfin un imaginaire va s'adresser à une certaine culture qui est incluse dans une certaine société ou bien dans un, on peut dire le continent européen, on partage quand même par les mythes, ou par les couleurs des représentations.
Ouais. Je peux faire... même au sein du continent européen, personnellement, moi, je travaille à côté, en France et en Croatie, dans un squat qui s'appelle Medica, à Zagreb. Et c'est un lieu dans lequel, en fait, je travaille avec des autrices. Alors, pour le coup, il n'y a qu'un mec, donc je me permettrai de dire autrice. slovène, grecque, hongroise... Monténégrène, si on dit monténégrène, je sais pas. Crna Gora, mais je ne sais pas comment on dit. Enfin, bref, on est beaucoup de l'est de l'Europe principalement voilà. Et en fait, rien que au sein de notre de l'Europe, quand j'avais participé à la Woman Powering Comics et que j'avais dessiné juste un petit zine qui avait pour but de faire valoir le droit des femmes et des LGBT, mes amies hongroises qui sont toutes venues en vélo, ça a un sens dans ce que je vais dire, m'ont dit j'adore la lecture écoféministe de ton zine. Moi, j'étais de quoi ? Pardon ? Donc, même au set, l'imaginaire, c'est un continuum et qui, je pense, se déforme beaucoup plus rapidement que ce qu'on veut croire. Parce que la Hongrie, alors, c'est vu comme une région pré-balkanique, pas spécialement complètement à l'est de l'Europe, mais rien que déjà au centre, on a une grille de lecture qui est très différente. D'accord. Donc, je trouve que l'imaginaire, il est beaucoup plus multiple que ce qu'on veut croire. Et comme tu le disais, tu parlais de montée du fascisme et on parlait marketing, tout ça, tout ça. Je pense vraiment que. On nous force à croire qu'il est beaucoup plus réduit que ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui, en fait. Quels sont nos référentiels? Quels sont les modèles qu'on a proposés? Faisons-les exploser et sortons des carcans de l'édition, finalement.
Alors, donc, ça rejoint une des questions qu'on doit aborder dans cette table ronde. Donc, on l'a bien compris, l'imaginaire modèle la réalité. Je pense que chacun de vous l'a expliqué dans son interprétation. Suivant plusieurs prismes, suivant plusieurs sensibilités, plusieurs histoires de vie et filiations aussi. Mais comment on peut remodeler, nous, les imaginaires ? Ou comment vous, surtout, pouvez remodeler les imaginaires ?
J'ai une petite idée qui vous fera tous intervenir. Moi, j'ai remarqué quelque chose dans les styles de dessin que nous avons tous les quatre en commun. C'est un détachement des canons, dirons-nous, réalistes, qu'on apprend à faire en base académique quand on dessine. Est-ce que c'est si réaliste ou est-ce que c'est pas plutôt idéaliste? Parce que je trouve que ce soit dans le style de Juni, Anis ou Lucie, on a une tendance à, j'allais dire cartooniser, pas vraiment, mais à déformer, mais quelque part pour, je trouve, toucher une réalité qui est autre. Justement, toucher des formes plus identifiables, ou alors des silhouettes qui ont plus de caractère et qui se détachent d'une forme moyenne qui serait réaliste, mais plutôt idéale, ce qu'une société sous IA voudrait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, si vous voulez parler de vos procédés graphiques, de comment vous décrivez votre imaginaire à vous, n'hésitez pas.
Anis ou Lucie?
Lucie, elle avait l'air inspirée, là.
Allez, Lucie.
Ouais, mais moi, je pourrais partir sur une heure pour parler de ça. Mais je vais essayer de faire court. Mais la représentation des corps, bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée dans mon roman graphique, parce que bah, ça parle de complexe, de rapport au corps, et surtout de comment on commercialise le corps et comment on en fait un objet de consommation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout mon travail, je résume un peu l'histoire en une phrase. C'est une espèce de clinique un peu mystérieuse qui va promettre aux gens de les débarrasser de leur complexe en 5 jours. Donc, voilà. On va suivre des personnages qui vont faire un séjour un petit peu magique. Enfin, c'est ce qui nous est vendu, en tout cas. Et en fait, c'est un univers assez dystopique, mais qui, finalement, a été inspiré par des faits d'actualité très... très actuel. Et moi, j'ai décidé de pousser un petit peu le curseur, on va dire, qui était déjà très loin. Mais j'ai pas l'impression d'avoir représenté des corps complètement imaginaires ou qui ne pourraient pas être... Enfin, j'ai pas été au bout de la caricature. Et justement, je voulais pas non plus que ce soit une caricature de la chirurgie esthétique. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très...
On s'identifie beaucoup.
Voilà, c'est
on
ça.
En tant que lectrice, en tout cas, j'ai pu m'identifier à un des personnages, ou même parfois à plusieurs personnages, suivant leur complexe. C'est ça que tu veux dire de ce ouais, sens-là, où t'es pas allée au bout de la caricature?
Ouais, bah déjà pas au bout de la caricature, et c'est surtout pour pas... Ouais, c'est ça, en fait, la chirurgie esthétique, ça peut être quelque chose de très positif et ça peut être aussi une manière pour les gens de se réapproprier leur corps, une manière de parler en fait avec son corps comme on se ferait des tatouages. Enfin,
oui, ça peut être une manière de bordéliser le réel, mais dans le réel. Enfin,
voilà.
Tu pourrais voir ça comme un pimp du chara-design, mais en vrai, certes très coûteux, avec des conséquences.
Exactement.
Mais qui va t'en empêcher, finalement? Ton portefeuille, peut-être. Mais ouais. Voilà.
C'est ça. En fait, je voulais pas... Enfin, voilà, je veux dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou être... faire une caricature. Par contre, j'ai beaucoup utilisé les codes du body horror pour transcrire des émotions et pour retransmettre un petit peu l'idée qu'aujourd'hui, on nous pousse à être dégoûté de notre propre corps. Et du coup, ben, ça fait bien sens avec le terme
d'un objectif commercial.
Exactement. Mmh. Ouais, on nous pousse en fait à détester notre corps pour consommer toujours plus de produits, toujours plus de choses pour améliorer notre corps. Et en fait, cette industrie va créer des besoins qu'on n'a pas, comme je sais pas, un nouvel iPhone, quoi. Pour nous pousser à consommer. Et justement, avec la bande dessinée, en fait, on peut se permettre plein de choses graphiquement. Et je trouvais que, moi, je me suis beaucoup éclatée en fait à dessiner des corps. Qui coule, de la crème qui se mélange et on ne sait plus bien qui est la crème.
Pâte à modeler un peu.
Ouais, c'est ça. Donc, où le personnage se confond complètement avec le produit. Et en fait, tout ça, ça va raconter quelque chose et ça va servir à dénoncer des idées. Et c'est comme ça un peu que j'ai utilisé, que j'ai représenté le corps et utilisé un petit peu cette déformation ou ce dessin qui n'est pas hyper réaliste, on va dire. Mm-hmm. En tout cas là dans mon ouvrage, quoi.
Dans un objectif d'impacter après le réel finalement du lecteur, c'est ça?
Ouais, exactement. En fait, je pense qu'à travers ce projet, je propose pas une solution, une réponse ou quelque chose de positif, mais j'accentue, on va dire, le négatif. Vraiment, je fais un peu des raccourcis.
Tu appuies le trait.
Voilà, pour qu'on puisse relativiser finalement ou se rendre compte de ce qui est en train de se passer vraiment dans la vraie vie. Et je me dis que tout est question de curseur, en fait. Si on va trop loin, on ne va pas nous croire ou on ne va pas prendre ça au sérieux. Et si ce n'est pas assez, on ne va pas... Voilà, donc c'est quand même une question intéressante.
Je trouve que dans l'abstrait que tu proposes avec tes dégoulinures où tu ne sais pas exactement ce qui est quoi, en fait, moi, je pense que moins tu définis ton sujet, moins tu le structures comme quelque chose que tu apprends de faire de manière canonique et académique, plus tu ouvres la porte à l'imaginaire et à la réception de ton lecteur, en fait. Donc, quelque part, réinvestir l'imaginaire, c'est aussi, comme tu l'as dit, doser et donner une marge d'interprétation à ton lecteur, que ce soit dans le scénario ou dans le graphisme, finalement.
Ouais, exactement.
Anis ou Juniba, comment on pourrait remodeler la réalité par l'imaginaire?
Avec $1 milliard. Donc en fait, je pense aux canaux de diffusion principalement.
Oui.
Je pourrais partir dans un tunnel, mais je ne sais pas si c'est nécessairement la meilleure idée. Parce que le premier exemple qui me vient en tête, c'est... Du coup, comme je suis dans... Enfin, j'interagis principalement avec la sphère américaine. C'est beaucoup de super-héros. Et depuis une quinzaine d'années, leur gros truc, c'est justement vouloir utiliser le super-héros pour remodeler pas mal de comment la société américaine se voit.
Une sorte de discours national, de roman national un peu
Non, pas forcément roman national. Justement, leur idée, c'est davantage... du coup, je vais essayer de faire court. Mais en gros... Au début, au milieu des années 2010, la grande mode des deux grosses majors Marvel DC, c'était on va remplacer tout le monde, tous les personnages blancs masculins, par un personnage d'une minorité qu'elle soit. Donc, pour ceux qui suivent les films et séries maintenant, Captain America noir, ça a commencé dans les BD en 2015 ou un truc comme ça. C'est le genre de truc où, à l'époque, les gens ont censé ça, pendant que je me disais, ça va durer 2 ans maximum, ils vont les renvoyer chez eux et on les reverra plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Et là, maintenant, la nouvelle mode, pour essayer, en fait, de remodeler leur imaginaire, de changer leur société, c'est faire des BD qui se veulent anticapitalistes, mais qui se limitent à, on va taper sur du facho et du milliardaire, et on va dire que c'est une BD de gauche. C'est globalement plutôt centre-droit. et bon, après, ça vient d'une société où c'est très compliqué pour eux d'imaginer vraiment un truc qui soit socialiste, j'allais dire. Mais du coup, pour moi, justement, le problème, c'est que quand je dis qu'il nous faudrait $1 milliard, c'est parce qu'un auteur dans son coin, il a une marge de manœuvre assez limitée. Une corporation a plus ou moins le monopole de qui prend l'ascendant sur l'imaginaire collectif.
Parce que... Qu'il sera visible.
Exactement. Donc là, ce mois-ci, il y a Mandalorian et Grogu qui sort. À côté, il y a I Love Boosters de Bruce Reilly, qui lui, pour le coup, fait des films qui sont extrêmement justement engagés, très très à gauche, mais genre vraiment à gauche. Et la discussion a viré plus, comment dire, globalement, si vous allez sur Internet, vous allez trouver plus de gens qui discutent de I Love Boosters que de Mandalorian, alors qu'on parle de Star Wars. Et d'un pélo lambda qui fait ça avec les moyens de bord, quoi. Et pour moi, c'est un des trucs qui me met un peu d'espoir, on va dire. Mais du coup, le premier truc auquel je pense quand on me pose la question, c'est qu'il faudrait $1 milliard qu'on le donne aux personnes qu'on considère comme étant celles qui ont fait justement le travail de réimaginer des sociétés différentes. Je préfère largement une adaptation des Dépossédés de Ursula Le Guin plutôt que, je sais pas, un énième truc sur... sur à quel point l'armée américaine, elle est géniale et les protecteurs de la planète, quoi.
Donc, jouer avec les codes et déjouer les codes, mais aussi se donner les moyens de manière pragmatique.
Ouais, y a,
en fait, de mettre en...
Je crois que là où je veux en venir, c'est que c'est pas tant une question juste des créateurs de d'art, c'est aussi qu'il faut que collectivement, en tant que société, il y ait une réflexion sur à qui on donne des sous, en fait, purement et simplement.
À qui on donne des moyens, voilà. À qui on donne pignon sur rue, et voilà. Pourquoi.
Et à quoi servent les fonds publics, si c'est pour les donner à des grosses corpos ou j'en sais rien. Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une limitation à combien de médias un être humain peut posséder? Wink wink, voyez vers qui je pointe mon regard.
L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que vaut-il pour faire
pas
cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre.